allez commencer notre intervention, notre intervention commune, puisqu'on va se passer la parole, François, Stan et moi, a pour thème « Quelle herméneutique pour lire la Bible ?» Et vous avez vu qu'il y a un S entre parenthèses pour indiquer qu'il n'y a peut-être pas forcément qu'une seule. Catholiques comme protestants, nous lisons la Bible comme un texte chargé d'histoire et témoin d'une histoire pour nous fondatrice, celle de Dieu avec son peuple, celle de Dieu avec ses enfants. Nous sommes toujours à nouveau amenés à naviguer entre texte et histoire. Et cela est nécessaire, ne serait-ce que parce que l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ se trouve au cœur de notre foi et que cette incarnation de Dieu dans l'histoire invite toujours à nouveau à revisiter cette histoire. Mais une telle navigation entre texte et histoire n'est pas sans risque. Elle requiert une méthode qui a été affinée à partir du XIXe siècle et qui a reçu le nom quelque peu ronflant et redondant à la fois d'historico-critique. Cette méthode allie de fait recul critique par rapport au texte et approche historique de ce texte. Cette approche ne règne plus en maître absolu aujourd'hui et est désormais à la fois complétée et affinée par d'autres. Il n'en demeure pas moins qu'elle a permis de distinguer un certain nombre de niveaux qu'il est indispensable de différencier pour ne pas s'échouer sur l'écueil du fondamentalisme. Ces trois niveaux sont ceux du texte en son état, de la tradition qui peut être sous-jacente à ce texte, et enfin de l'événement, acte ou parole, auquel renvoie ce texte. Nous illustrerons cela à partir de la quête du Jésus de l'histoire, fondamentale précisément en ce qu'elle nous permet d'attester la réalité de l'incarnation et de ne pas simplement avoir affaire à un Jésus qui serait l'émanation d'un texte, ou plutôt deux textes, les évangiles, sans que l'on ne s'attache à se demander jusqu'à quel point le portrait qui en est dressé peut correspondre de près ou de loin à ce que put être la prédication et l'action de Jésus de Nazareth. Vous avez sur vos tables des tableaux. Le premier de ces tableaux illustre de manière schématique les niveaux que l'on est amené à distinguer aujourd'hui. Vous l'avez donc sous les yeux. Il montre l'écart temporel que l'on est amené à reconnaître entre le Jésus historique, c'est ce que j'appelle le niveau 1, c'est tout en haut de la page, celui de la rédaction des évangiles canoniques, qui se trouve, lui, en bas, qui constitue le niveau 3. Il met également en évidence l'importance que l'on est amené à attribuer dans l'intervalle au niveau 2, qui se trouve plutôt en haut de la page, si vous voulez, mais en dessous d'une indication Pâques, et ce niveau 2 est celui de la tradition. Il correspond à une phase au sein de laquelle les disciples de Jésus ont été amenés à confesser, enseigner, raconter, fonder et prêcher l'événement Jésus, ce qui a abouti respectivement, après le tournant qu'ont représenté les apparitions pascales, à l'élaboration progressive de confessions de foi, d'une catéchèse, d'une parénèse, c'est-à-dire d'exhortation, de tradition narrative, d'une argumentation fondée sur l'accomplissement de l'Écriture, d'une prédication missionnaire, etc. La prise en compte et la mesure de ces écarts entre le Jésus de l'histoire, la tradition qui s'est constituée autour de lui et les récits évangéliques peut s'avérer profondément féconde sur le plan théologique. C'est qu'elle donne accès à la manière dont a été compris, lu et relu l'événement Jésus-Christ, à la lumière du pivot que représentent les apparitions pascales, à la lumière desquelles Jésus a été pleinement reconnu par les disciples en tant que Messie et confessé dès lors comme Fils de Dieu. Comme je l'ai indiqué, depuis la fin des années 60, d'autres méthodes sont apparues à côté de l'approche historico-critique qui s'engagent non pas dans des enquêtes de type génétique.